Forum Opéra. Émission spéciale.
Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus très nombreux à ce rendez-vous que Forum Opéra vous a proposé avec notre diva favorite, Madame Angela Georgiou, que je remercie mille fois d'être venue à ce rendez-vous ce soir. Et nous sommes très honorés de votre présence et très heureux de pouvoir vous poser quelques questions modestes devant ce public nombreux. Un public que nous avons dû trier parce qu'il y avait de très nombreuses demandes. Donc, désolé pour ceux qui n'ont pas pu obtenir la place qu'ils convoitaient, mais ce sera sans doute pour la prochaine fois. Nous allons passer un peu moins d'une heure ensemble, si vous en êtes d'accord. Je sais que vous avez eu une longue journée, fatigante, mais nous avons beaucoup de questions à vous poser sur non seulement évidemment ce qui vous amène ici aujourd'hui, cet album, mais aussi plus généralement sur votre carrière, sur votre recul sur le monde de l'opéra et de l'art lyrique, et puis sur votre parcours et sur votre art. Donc ça fait beaucoup de choses sur lesquelles nous avons envie de vous poser des questions que nous espérons pas trop désagréables. Je serai accompagné dans cette tâche éminemment difficile par Roselyne Bachelot, qui est avec nous ce soir également et qui mènera la danse, à vrai dire, pour tout dire, puisque moi, je ne ferai qu'accompagner les questions de Roselyne ce soir. Et puis peut-être que j'en poserai si j'en ai le temps. Donc voilà, écoutez, en tout cas, nous sommes ravis de vous compter parmi nous. Je remercie beaucoup la direction de l'hôtel Raphaël qui nous accueille ce soir et qui nous a permis d'organiser cette rencontre. C'est de la part de l'hôtel Raphaël un privilège, un honneur. Et puis le lieu est très beau, même si les auditeurs ne pourront pas le voir. Ceux qui sont présents, en tout cas, peuvent apprécier le cadre qui nous a été réservé par le Raphaël, hôtel, s'il en est, mythique à Paris. Voilà, je ne parle pas davantage. Je vais laisser la parole à Roselyne qui va commencer son interrogatoire, ou plutôt son interview. Et puis, à la fin de cet entretien, nous ferons circuler le micro dans le public pour compléter les questions qui n'auront éventuellement pas été posées et que nos spectateurs ici présents, eux, se posent. Merci beaucoup.
Merci, Sylvain, de cette présentation. Angela, bonsoir. C'est un bonheur que de vous avoir parmi nous. Et en préparant cette interview, je me souvenais de la phrase de Cervantes qui disait qu'il fallait toujours garder dans sa main la main de l'enfant que l'on a été. Vous avez une enfance qui se passe en Roumanie, dans une dictature, et dans cette partie de la Moldavie qui a vu s'étriper à peu près la terre entière, tout ce qui, dans l'Europe, a compté de barbares. Comment est-ce qu'on vit, quand on est une petite Roumaine, dans cette Roumanie de Ceausescu? Comment c'était votre enfance?
Alors, quand on est enfant, on ne pense pas à la nationalité. On ne pense pas qu'on devient, on ne pense pas à des détails que maintenant, dans votre demande, bien sûr, avec le temps, on peut juger autrement. C'est vrai que je suis née dans un pays communiste que je ne vous le souhaite jamais d'avoir, même une semaine. mais dans le même temps, quand j'étais vraiment petite, je commençais à chanter bien fort, autrement que les autres enfants. Et depuis mon enfance, depuis la maternelle, non, on dit comme ça, et j'ai compris, moi et ma famille, mes professeurs, tout le monde, on a compris mon
que vous aviez un rossignol dans le gosier.
Oui, et bien sûr. Et j'ai pas pensé des choses politiques, bien sûr. Vraiment, la voix et comment j'ai été quand j'étais petite, aussi différent que les autres. Je suis dans un habituée avec moi. Autrement, j'ai toujours été dans ma vie différent que les autres. Alors, la famille, les professeurs et tout le monde autour de moi, ils se comportaient différemment avec moi.
Tout de suite, vous rentrez à l'université musicale de Bucarest à 14 ans. Tout de suite, vous êtes la star.
Je n'ai pas pensé à star, mais je savais que... Alors, quand vous voyez quand tu es petit et tu vois ta famille, le professeur, tout le monde en te disant, s'il te plaît, chante-nous quelque chose, qu'est-ce que tu as appris encore de nouveau, et que tu vois les larmes dans les yeux, je crois que tu comprends, même si tu es petite. Mais j'ai commencé à étudier le chant vraiment à 14 ans. Et ça m'a beaucoup aidée. Et j'ai compris que je dois être bien préparé.
C'est cela.
Mais je pensais que à être bien préparé. En plus, au lycéum et conservatoire, il y avait quatre places pour le pays entier. Alors, on avait peut-être 90 candidats pour
ces quatre places.
C'était vraiment une lutte pour avoir le place. Mais même si j'ai vécu tout ça, jamais de ma vie, je n'ai pas pensé de ne pas faire tout ce que je viens faire. Jamais.
Vous saviez déjà qu'il y avait le destin qui était sur vous.
Moi, j'avais cette conscience, et aussi parce que tout le monde parlait de ça à côté de moi, parce que tu es, j'ai entendu que ça. Alors, j'avais l'assurance même du public, de Roumanie, que dans le moment précis, moi, je dois faire une carrière. Mais pour avoir une carrière, tu dois être bien préparé.
Oui, parce que quand même, vous l'avez dit, le fait que les Ceausescu meurent quelques jours, jour de Noël, avant que vous commenciez votre carrière professionnelle,
ça,
c'est quand même un coup de bol aussi.
Mais on attendait tous. Hein, pas la mort, parce que nous, en général, en Mali, on n'est pas vraiment pas d'accord avec la politique qu'ils ont tuée. Le personnage, on ne devait pas faire une chose pareille pour le jour de Noël, c'était affreux.
Vraiment, 25 décembre 1989.
C'était affreux. Mais avant qu'il meure, j'ai reçu mon premier téléphone un impresario, non?
Un agent.
Qu'il savait, en fait, mes collègues, Leontina Vodova et Alexandre Agaki, déjà, ils ont parlé de moi. Et le monde, dans l'opéra, le monde, on est petit, on sait toujours s'il y a quelqu'un de spécial qui arrive. Alors, c'était mon cas aussi. Bon, alors, j'ai reçu mon premier coup de téléphone pour mon premier contrat.
Sylvain. Voilà.
Ça, c'est tout à fait étonnant parce que là où vous êtes né, cette carrière qu'on vous promettait, même si vous aviez cette assurance et cette ambition, le monde de l'opéra, même dans les années 90, était déjà un monde assez cruel. Oui. Et au fond, vous avez eu aussi peu de temps après beaucoup de rencontres qui vous ont fait avancer. Est-ce que vous pourriez nous parler, s'il vous plaît, quelques instants de Georg Schulte, même si ça vient un peu plus tard, parce que je suis très curieux de cette relation et de ce travail, parce qu'il me semble que la façon dont il travaillait est une façon qui s'est un peu perdue, si je peux me permettre. En tout cas, lui était héritier d'une tradition qui s'est un tout petit peu perdue, et vous êtes d'une certaine manière l'héritière de cette tradition-là aussi.
Oui. Alors, je me rappelle, à 18 ans, moi, j'ai fait un concert à Bucarest avec tous les grands chanteurs d'opéra. J'ai fait l'air de Traviata, Dio del Passato. Et ma maman, elle m'a fait une belle robe pour moi, bleue, je me rappelle, c'était joli.
Votre maman ?
Non, elle n'est pas là. Mais elle est bien, elle est en Roumanie, c'est chez elle. Et avec moi, quand ça lui fait plaisir, j'ai des témoins. Alors...
Voilà. Parfait.
C'est vrai. Et quand j'ai fait Addio del Passato, à 18 ans, j'étais absolument sûre que ça va venir le jour quand je ferai Traviata. Gershalt, il est venu me voir quand j'ai fait mon début à Covent Garden. Vous le saviez, non, pour la bohème. Que c'était en fait pas mon début. Je disais toujours que c'était mon début, que ça donnait très joli et beau avec Roberto, mais c'était pas vrai. J'ai fait mon début avec Don Giovanni, avec Brinterfeld.
Avec,
okay.
Avec Zelina. Bon,
et voilà, avec Zelina. Et pendant le spectacle, Joe Scholti il est venu nous voir. Il nous a proposé de faire Traviata, mais séparé. Roberto séparé, il devait faire vidéo et tout ça, et moi je devais faire que la première. Et Joe Scholti, en fait, je crois, je ne sais pas si ça existe beaucoup des histoires comme ça, qu'un chef d'orchestre aussi important comme lui, il a voulu me faire montrer à tout le monde que moi je dois faire ça, que moi je peux faire ça. Et pendant les répétitions, je vous dis ça vite, il est allé dans tous les coins de l'opéra pour m'écouter tout l'ouvrage, avec la partition de Traviata. Il a fait ses notes sur la partition, il est revenu à l'orchestre, il a donné toutes les indications pour que l'orchestre joue pour moi, pour ma voix. Que tout le monde peut me voir.
Il laissait tomber les autres, il y en a
non,
pour
non,
vous.
Pas laissé, non, il a fait d'un sort que tout le monde à côté de moi, m'embrasse et que me fait comme un support familial, professionnel. Et en plus, il s'est battu. Et on ne sait pas si ça existe beaucoup de chefs d'orchestre qui se battent pour qu'en arrivant, non, j'ai fait mon début 2 ans avant, que tout le monde m'écoute, que la télévision écoute, qu'il doit tout s'arrêter au monde. Et qui viennent, et même la maison de disques, de faire un enregistrement live. Et tout ça, pendant tout ce travail de George Scholti, j'ai compris ça. Si on veut, on peut faire. Alors, ma volonté, il m'a donné ça, cette volonté. Toujours, je me suis dit, mais si je veux faire, c'est sûr que je veux arriver, c'est impossible. Et il m'a donné cette assurance de moi-même, si je peux dire. C'est pour ça qu'avec le temps, j'ai mis comme dans l'ouvrage, si on peut dire, c'est sa façon de voir la profession.
Alors, ça se passe à Covent Garden. C'est là où véritablement vous explosez dans votre carrière professionnelle. Qu'est-ce que vous avez trouvé à Covent Garden? Parce que je crois plus de 150 représentations à Covent Garden. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Oui, mais il y en a qui font des comptes.
Moi, non, pas voilà. Encore.
qu'est-ce que vous avez trouvé à Covent Garden que vous ne trouvez pas? Pourquoi cette salle, elle est aussi mythique pour vous?
Parce que j'ai fait mon début et aussi parce que quand j'étais petite, mon idée, jamais j'avais l'idée de faire Scala ou je sais pas d'autres théâtres. La façon de... j'ai vu les spectacles, cette classe, mais dans le même temps éclectique, c'était tout comme pour moi, fait pour moi. Sur mesure, c'était un théâtre sur mesure. La salle, ni trop grande, ni trop petite. Non, j'aime pas les petites salles. Des trop petites, les kiki, ça me fait... Je sais pas, ça me fait...
Pas les trop grandes non plus.
Mais non. Ça peut être le plus grand possible. Et jamais j'ai eu de problème avec la grandeur. Ça veut dire, si tu... ok. Very funny. Bien sûr, ça veut dire, si j'ai un micro, ou si j'ai une grande salle, ma technique, si je suis en train d'étudier chez moi ou dans les salles les plus grandes, ma technique est toujours la même. Alors, j'ai jamais eu de problèmes. Mais avec Covent Garden, aussi, ils m'ont donné, ils m'ont fait confiance, beaucoup. En fait, jusqu'aujourd'hui, parce qu'ils ont fait toujours tous les projets avec moi, et après, bien sûr, parce que moi, j'ai vu qu'on peut faire ça, alors je l'ai fait partout, dans toute ma carrière, le même la même mise en scène avec un théâtre. Moi, j'ai toujours demandé. Ça me plaît à faire ci, ça me plaît ça, je veux ce chanteur, cette production, ce metteur en scène. J'ai tout demandé, toujours.
Oui, vous êtes une commandeuse.
Non, pas commandeuse. Non. Non, j'ai toujours eu la possibilité d'avoir une conversation amicale. Et ils m'ont
vous
fait
avez
confiance.
Eu l'impression d'être respectée à Covent Garden.
Pas qu'à Covent Garden.
Non.
Parce que je crois que dans le moment quand tu viens avec des propres. Tu as une idée. Voilà, ça me fait plaisir de faire la rondine, par exemple. Et alors, on va penser, c'est qui le chanteur, le directeur d'orchestre, le metteur en scène. C'était toujours les productions faites sur moi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et même, j'ai fait comme une étude. Et puis, comme j'ai dit, notre monde est le petit. Presque toute ma carrière, partout dans le monde, j'ai eu presque les mêmes collègues. Si je fais Bohème ou ici, je fais bien sûr à propos de Bohème, non, dans le monde entier, je sais qui c'est le chanteur vraiment bien pour moi. Et j'ai toujours, en fait, pour tous mes collègues, tous les chanteurs hommes, parce que je n'ai pas beaucoup chanté avec les femmes, mais hommes, j'ai toujours eu une idée, c'est qui le meilleur dans une production ou dans un autre.
Et précisément, cette décision, ce choix que vous avez fait, c'est appliqué à des partenaires chanteurs, mais aussi à des chefs d'orchestre. Et Covent Garden, c'est aussi, pardon, je reviens un peu à mes obsessions, mais c'est aussi Antonio Papa, non?
Non, pas du tout. Antonio Papano, c'est là, c'est hier. Non, jusqu'à... Non, pas du tout.
Alors, il est habillé pour l'hiver.
Non, ça n'est plus Antonio Papano.
Mais non, c'est pas que c'est... Il est toujours, bien sûr, parce que c'est... je ne suis pas sa maman, mais je suis sa collègue. Je fais tout pour lui. Parce que moi, je l'ai vu à Bruxelles. Et... 92 et 93, j'ai vu Tony, Papano et Roberto. Je me suis dit que c'est lui le bon chef pour mon premier disque. Et on a parlé, bien sûr, avec EMI dans le temps. Moi, avant, j'étais avec Decca. Okay? Mmh. Et c'était comme ça. Roberto, il était sur mon contrat de Decca, lui, vice-versa. Voilà. Mais on a fait des projets ensemble, même... Je me rappelle de Tony Papano, on a beaucoup lutté dans le temps que j'ai fait Tosca. Voilà, on a ici quelqu'un présent qui sait bien qu'on voulait bien sûr dans les grands noms de chefs d'orchestre, Zubin Mehta ou autres dans le temps. Et moi et Roberto, on a fait tout, j'ai lutté pour avoir, j'ai toujours dit voilà, on doit avoir Tony Papano parce que c'est le chef d'orchestre qu'on doit avoir toujours avec nous. Parce qu'il a le père, je crois, il était chanteur, il a été accompagnateur, et il a cette connaissance pour les chanteurs, et aussi accompagner, et l'amour pour le chant. Et
vous avez le sentiment qu'il vous a un peu trahi pour l'enregistrement d'Aïda.
Bravo. Je ne sais pas, il a fait ça, oui, bien un peu. La femme, c'est bien. Oui, pas seulement lui, la maison de disques, bien sûr. Et
Jonas.
Ténor.
Et Jonas.
On a dit après l'enregistrement de Butterfly, on se voit pour Aïda, mais...
Allez,
on va passer
à d'autres choses. Les mauvais souvenirs.
Non, mais ça c'était quelque chose que c'était pour la première fois dans ma vie que j'ai vécu. C'est pas gentil. Mais dans le même temps, depuis, bien sûr qu'on s'est vu. Et c'est avec la maison de disques que je viens en faire maintenant et qu'on se voit là, ici ce soir, parce qu'ils ils ont pensé, on a réfléchi que c'est dommage de ne pas enregistrer encore. Mm-hmm. Et c'est grâce à eux, bien sûr, et le chef d'orchestre Emmanuel Vuillaume, qu'on a dit que c'est bien de faire un disque avec un répertoire, que ça me va bien.
Vous avez parlé de ces liens avec les metteurs en scène, les chefs d'orchestre.
Mais on vit avec.
Oui, mais on a le sentiment que vous décidez de votre vie, vous décidez de votre carrière de chanteuse, et que maintenant, en fait, beaucoup de chanteurs et de chanteuses sont dans un état de soumission vis-à-vis des maisons de théâtre, vis-à-vis des metteurs en scène, qu'on leur fait faire des choses qu'ils n'aiment pas.
Oui.
Et vous, vous refusez ça.
Oui.
Comment vous y arrivez?
Mais pour vraiment à dire non. J'ai un exemple, Faust à Metropolitan. C'était moi avec Jonas, et on a dit que c'est qui le metteur en scène, ok, mais le metteur en scène, il est venu avec une production, et le théâtre avec une production que je n'ai pas aimé du tout, et j'avais raison parce qu'ils vont changer la production. Et il y a des collègues, Jonas, il a accepté. En face de moi, il disait qu'il ne peut pas supporter, c'est vraiment mauvaise, mais quand même, il l'a fait. Alors, dans le monde des chanteurs de l'opéra, ils ont toujours peur de ne pas être encore invités. Et c'est pour ça que tout le monde, dans la face, entre nous, collègues, on dit les vérités. Bien sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de dire les vérités. Mais après, c'est plus difficile de dire le nom. Ce nom, bien sûr que ça peut. Ça, je ne l'ai pas vécu, grâce à Dieu, je ne l'ai pas vécu. Mais ça peut arriver qu'un théâtre ou un metteur en scène ou quelqu'un, il t'appelle plus. Et ça, c'est bien sûr que c'est dommage, mais c'est la vérité. Et moi, je suis vraiment encore la seule que j'ai dit non. Et bien, c'était non jusqu'à la fin. J'ai refusé des productions où j'étais vraiment pas bien du tout.
C'est une sorte de principe de conduite.
Oui.
Est-ce que c'est pas votre enfance aussi qui vous a appris à dire non?
Non, c'est peut-être.
À quel moment vous êtes dit faut que je dise non?
En fait, je crois que ça m'a aidé d'avoir mes propres idées pour ma vie et surtout sur ma vie professionnelle, où j'avais cette assurance parce qu'en Roumanie, je n'avais pas la possibilité d'avoir une opinion, jamais. Tu ne peux pas avoir une opinion. Dans le temps, là maintenant, ça a changé. Mais c'était impossible d'avoir une opinion, c'était impossible de dire non. Et pendant mes études, j'ai beaucoup fait des choses c'était pas bien, même la musique patriotique, des choses, des paroles avec le nom de Ceausescu, c'était affreux. Et après, c'était comme j'étais libre. Je me sentais
bien quelque chose qui vient de votre jeunesse. Vous me dites non, puis ensuite vous me dites
mais
oui.
Attends, non, mais pas quand, non. Et je continue. Parce qu'à l'âge de 14 ans, moi, j'ai été en internat, non, à l'école de musique. Alors, j'étais seule. Et parce que vous rendez compte, une fille de 14 ans seule dans la capitale. Alors pour étudier et de devenir quelqu'un dans mon pays et dans le monde entier. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours pensé grand. Peut-être que c'était une folie. C'est sûr que c'était une folie. Mais cette volonté et le fait que j'ai jamais mis une demande. J'ai jamais demandé. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était, je demandais à moi-même. C'est moi que je devais décider pour ma vie. Jusqu'aujourd'hui, presque toujours, comme 90% de tout ce que je fais, c'est que moi. C'est que moi que je dois décider.
Alors, les 10%, là, parce que finalement, c'est toujours ça qui... Non, parce que vous...
Ça fait que, comme je suis plein de moi, mais je suis plein de moi parce que je, plein de mes... je me suis sentie obligée parce que j'étais née toujours. J'avais la conscience que j'ai un don, que je dois faire le maximum possible avec ce don. Avec beaucoup de travail, pas seulement beaucoup de travail, mais qu'en pensant qu'on pour un enfant, c'est, et que pour le plus grand trésor, le plus grand trésor, c'est, et aussi mon trésor, c'est dans mon corps, et que je dois porter toujours, avec toute ma vie.
Oui, mais enfin, dans Cobus, vous faites une interview, vous dites « I am the black sheep of lyrical art ». Être le mouton noir de l'art lyrique, c'est quand même quelque chose d'assez lourd sur les épaules. Si vous dites ça, c'est qu'il y a quand même une pointe de regret.
Mais ça continue, ça continue. Ça veut dire que je suis le mouton noir parce que je suis la seule que je dis non. Et je pars, si ça ne me convient pas. Je dis jamais j'ai eu des paroles ou jamais j'avais un ton avec quelqu'un. Non, moi, j'ai vu des fois des choses vraiment mauvaises. Je me suis retournée. Merci, grazie, arrivederci, qua non è Giuseppe Verdi. Et voilà.
Et vous n'avez jamais peur?
Peur de quoi?
Peur de qu'on ne vous appelle plus, peur qu'on ne désire plus, etc. Peur.
Mais là, ça, c'est trop tard. C'est trop tard. Mais si demain je ne chante plus, moi, merci Dieu, ça va. Ça,
vous
ça
avez...
Va. Ça va, ça va. Et j'ai pas. Vous vous rendez compte que moi j'ai commencé à regarder des grandes partitions et en pensant quand j'étais encore étudiante, la dernière année, et moi j'avais déjà le contrat à Covent Garden. Oui. Je me dis, oh, waouh, j'étais toujours. J'avais cette. Comment je peux vous dire? C'était la conscience que je dois faire tout ça, mais pour des années et des années. Moi, j'avais la conscience toujours que je dois avoir cette force pour beaucoup des années. Que je veux arriver, je pensais, c'est comme dans le spectacle. Quand le spectacle commence, moi, déjà, je pense à la dernière note. Mais ce n'est pas que je pense, vraiment, je le fais. Mmh. C'est pour ça que ça arrive que je ne donne pas beaucoup de force, de volume. Parce que je veux que ma voix reste fraîche jusqu'à la fin. Jamais de ma vie, après un spectacle, j'étais fatiguée. Jamais. Et jamais j'ai vu un docteur pour mes cordes vocales. Jamais.
Touché.
Non. Je touche. Non, mais même. J'ai dit 100 000 fois, c'est pas grave. Parce que c'est vrai. OK. Ok, mais quand même, la santé vocale, ça vient de santé de partout. Ce n'est pas que les deux cordes vocales, non? Qu'est-ce que vous dites? La santé, c'est tout. C'est le corps, le cœur, l'esprit, ta famille, les amis. Je me suis toujours entourée de famille et des amis. Tout le monde, même encore j'ai des témoins, toujours j'ai quelqu'un avec moi et que ça fait part aussi de mon bonheur et que je donne le bonheur à les autres. Je le sens et je le fais.
On va peut-être parler de votre actualité qui est cet Eternamente qui sort là. Vous avez dit une phrase terrible, vous avez parlé du bon temps, où Alain Lanceron est là, il va être furieux, il va être furieux que je dis ça, du bon temps où on vendait, où les disques se vendaient, ce qui ne semble plus être le cas, moins le cas.
Depuis longtemps.
Ouais. Vous avez abandonné les enregistrements pendant un grand moment.
Oui, qu'est-ce qu'on a dit, mais c'est passé.
Qu'est-ce qui vous a poussé? Pourquoi tout d'un coup vous êtes dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse cet enregistrement. Pourquoi ces titres? Pourquoi ce choix?
Première fois, c'est bien Alain Lanceron, c'est vrai, on a pensé bien sûr à d'autres genres de musique, mais Verismo, ça venait un petit peu logique. Et j'ai aussi j'ai rêvé de chanter plus vite possible un duo que j'adore, c'est le duo d'André Chénier. Et je l'ai vu avec Aurélie, il y a et je me suis dit, je dois faire de Verismo, je dois chanter.
C'est brûlant. Hein.
Oui, c'est splendide, c'est splendide. Et le répertoire, il est toujours un peu difficile et pesant, et c'est pour ça que j'ai voulu aussi de mettre un petit peu de mélodie dans la même époque. Et j'ai fait un mélange que ça peut se prendre ou pas, ou quand même j'ai donné
vous n'avez pas forcément choisi, c'est votre choix, il n'a pas forcément une cohérence externe, il n'a que votre cohérence personnelle.
La cohérence personnelle, toujours, j'ai toujours cette cohérence personnelle, mais surtout sur le chant. Mais jamais toute seule. J'ai jamais eu un monologue. Si ici présent à Alain Lanceron, on a parlé de plein de titres ou de styles de musique, parce qu'il y a encore des styles de musique que je n'ai pas encore touché.
On va en parler un petit peu plus tard.
Bien. Okay. Et bien sûr que j'écoute. Moi, j'ai fait une liste. Et après, je vois si tout le monde est d'accord. Jamais je fais contre. Non, pas du tout. Non. Toujours. On fait un rendez-vous. Plus des fois, et on trouve la meilleure formule que ça nous plaît à tous.
Alors, il y a dans votre calendrier la sortie de ce CD, il y a un certain nombre de choses. Vous revenez de Corée, je crois.
Oui, j'ai encore jet lag, je suis encore sleepy. C'est l'heure de coucher.
Vous retournez à Covent Garden dans quelques semaines, oui, c'est ça.
Oui.
Et vous êtes.
Mais avant, c'est déjà du travail. Alors, je fais encore de. Je suis à Berlin, je refais la bohème.
La bohème.
J'entends que vous avez une nouvelle bohème à Paris.
Non, mais à Paris, à Paris, dans le calendrier, il n'y a que l'Opéra Garnier, le récital.
Ah, pour moi, oui.
Ouais, pour c'est tout. Il faut déjà prendre les
places. Pour moi, oui.
Sylvain.
Non, okay, ce qui est amusant avec cet album Verismo, c'est qu'en fait, une grande partie de votre carrière se fait un peu dans ce répertoire, même si là, il y a des choses nouvelles. Mm-hmm. Et vous avez apporté à ça une forme tout à fait personnelle d'intensité qui ne va jamais avec une expressivité, je dirais, non musicale. Et ça, c'est tout à fait, c'est vraiment votre marque, votre style. Enfin, c'est ce que vous apportez à ce répertoire, c'est cette force qui ne passe jamais par un forçage, par un effort supplémentaire d'expression.
J'aime pas forcer les choses. C'est comme dans la vie. Si tout ce que c'est exagéré, non, c'est pas bien. Et ça vient le temps quand ça fait plouf. Et ben alors, c'est bien de ne pas faire plouf. Dans ma voix, par exemple, que ça me préoccupe bien fort. Et puis, je suis aussi quelqu'un qui écoute les disques. Et j'aime déjà le répertoire, comme la drame, c'est toujours là, et l'orchestration si forte, et on chante ensemble, c'est le duo permanent, et tragique, et on pleure, à l'opéra on pleure, alors je pensais que dans le répertoire Verismo, c'est vraiment un danger de ne pas avoir la patience d'écouter tout le disque, parce que c'est vraiment fort, tout fort, de fort à trop fort. Et c'est vraiment toute cette émotion, parce que c'est pas du bel canto. Mmh. Bel canto, c'est vraiment une autre époque, vous le connaissez, de Donizetti, Bellini, et voilà. Et c'est tout plus calme, c'est autre chose, c'est un autre style. Le style de Verismo, c'est fort. Et je voulais chanter un petit peu les notes que ça fait plaisir. Bien sûr que dans Suicidio, je devais chanter quand même, c'est vraiment fort. Oui. Mais dans les autres, comme Tosca par exemple, j'arrive pas à crier. Je ne sais pas comment on fait. J'ai pas la voix pour avoir vraiment des sons. Si j'arrive à des sons pas belles, ça veut dire que je suis pas bien avec la voix, alors je me tais. J'aime pas les sons que ça fait. Et en plus, un disque et le microphone, le micro, ça doit être de pas, en fait, que je veux pas perdre la phonogénie de la voix. C'est vraiment le vibrato trop, que ça fait vraiment vieux, et c'est bien. En fait, dans mon jugement, j'ai toujours réfléchi à Luciano Pavarotti, parce que toujours il disait, même n'importe quel répertoire, si tu as une voix lyrique, si tu as une voix belle, tu dois faire des couleurs, jamais forcer. Et c'est bien que dans ta vie, plus long possible, tu tiens cette jeunesse vocale, mieux c'est plus sain d'avoir la jeunesse vocale.
Donc vous ne travaillez pas du tout, vous ne vous préparez pas du tout pour un enregistrement comme pour un opéra, comme pour une représentation. Vous ne chantez pas de la même façon.
Non, moi je chante. Non, c'est exactement le contraire. Non, je vous dis pourquoi. Parce que comment je commence à étudier, si je dois chanter ici et dans une salle de spectacle avec un micro pour un open air, et jamais j'utilise une autre technique de voix. Pour moi, la technique de ma voix, c'est exactement la même chose. N'importe l'endroit. Et même, j'ai voulu toujours que pour les disques, bien sûr, j'ai eu une grande chance avec les deux maisons de disques. J'ai fait mes opéras et mes recitals. J'ai eu cette occasion de faire des opéras pour la première fois. Et que tout le monde, moi j'ai étudié à la maison, et tout le monde m'écoutait pendant l'enregistrement pour la première fois de ma vie. Presque tout ce que j'ai sur un DVD ou CD, c'est presque toujours pour la première fois que je chante ça.
Comme la Tosca de Jacou.
Absolument, c'était pour la première fois de ma vie. Oui, oui.
Deux ans après,
bien sûr. Oui. Mais je suis vraiment attentive parce qu'il y a des rôles que sur scène, j'ai pas eu encore le courage de le faire, comme Madame Butterfly par exemple, et peut-être Cavalleria Rusticano, je sais pas si.
Qu'est-ce qui vous fait peur dans Butterfly?
L'émotion.
Vous avez peur d'être emporté?
Non, j'ai peur parce que je peux pas chanter en pleurant.
C'est compliqué.
Non, c'est compliqué parce que je suis vraiment très émotive. Moi, je suis brune comme ça. Vous pensez toujours que je suis forte. C'est vraiment la couleur que je le fais depuis
parce
longtemps.
Parce qu'on a compris une chose, les brunes sont plus fortes que les blondes.
Mais non, pas du tout. Non. Mais non, je ne sais pas. Ça dépend du caractère. Non, je suis quelqu'un de très émotif. Vous pouvez demander à tous mes collègues. Si, OK, toujours. Mais avec le personnage, et avec les costumes, avec l'émotion de spectacle, ça passe.
Je vais vous poser une question, puisqu'on parlait de la Corée à l'instant, pour élargir le champ des questions. Quel jugement vous portez sur ce qui est en train de se passer dans la restructuration de l'opéra? On assiste à des concours où on voit que des chanteurs coréens qui gagnent les premiers prix. On l'a vu au Capitole de Toulouse l'an dernier. On sort des Voicemasters de Monte Carlo où il y avait deux chanteurs coréens qui ont gagné qui étaient à la première et à la deuxième place. On voit d'immenses salles de concerts qui se construisent partout en Asie, qui se construisent aussi dans les Émirats.
Ils sont très bien d'ailleurs.
Alors, Mais on va résister, vous allez résister, les chanteurs européens, ils viennent vous bouffer la laine sur le dos, ces gens-là.
Je crois qu'on ne pense pas comme ça, nous. Je parle de moi. Non. Les chanteurs, non, un chanteur, s'il a ici un don, une voix, n'importe où il est né, on doit vraiment dire merci Dieu. Parce que la voix, c'est quelque chose que des fois est né dans un corps pas aussi comme on veut, on n'est pas on fait pas de la mode, mais la voix, c'est un instrument que tu peux le découvrir depuis que tu es petite. Et plus pour les femmes que pour les hommes. Pour les hommes un petit peu plus tard. Mais quand même, la voix doit être respectée de la personne qui est née avec sa voix. Le respect, ça commence avec la personne qui il comprend qu'il a un don. C'est le premier respect que tu dois avoir. Et tous les autres, bien sûr qu'en voyant maintenant, parce qu'on regarde et on écoute avec les yeux, de plus en plus, on arrive d'avoir les chanteurs du monde, parce qu'on fait des compétitions internationales, les scènes ils sont, et même bien sûr, on a de toutes les couleurs des chanteurs, non? Les chanteurs avec la peau noire, belle, qui sont d'Amérique, ils sont magnifiques. Et je viens de recevoir un mail d'Afrique du Sud, qu'ils font un concours.
Ils ont des chanteurs
magnifiques. Et, écoutez, on doit trouver aussi la place pour eux. Je comprends que nous, les Européens, on veut avoir le physique du rôle. C'est idéal. Mais on ne peut pas avoir toujours ça. Et un phénomène, je peux vous expliquer tout court. Si tu as une personne vraiment bien forte, femme ou homme, et il est bien fort, et quand commence sa voix, il devient sympathique, tu vois plus rien. S'il vient vraiment, il commence une voix mauvaise, ça devient moche. Voilà, c'est ça le phénomène. Alors la voix, si bien sûr, si on a les deux, on le sait bien, ok.
Oui, mais
ça aide.
Mais c'est important ce que vous
mais
dites.
Mais c'est pas nécessaire de juger, parce qu'on peut faire un desservice. On peut de s'empêcher, par exemple, si maintenant, si dans le monde, ça n'existait pas Luciano Pavarotti, comment c'est si, sans Luciano Pavarotti, je ne peux pas voir le monde sans Luciano Pavarotti. Et si Luciano Pavarotti il vient aujourd'hui avec, je ne veux pas dire des noms, mais les beaux là, d'aujourd'hui, ils font l'audition pour un rôle, tu prends le beau. Et Luciano a dit, mais c'est pas.
Oui,
c'est
mais
pas
alors,
juste.
Justement, parce qu'à l'heure c'est actuelle, on va préférer un comédien chanteur qu'à un chanteur tout seul. Donc vous dites, de toute façon, la voix prime
absolument.
Et impérativement.
Impérative. J'espère.
Même s'il arrive à l'avant-scène que c'est un tonneau qui ne bouge pas, s'il a une très belle voix.
Non, les jeunes bougent, même s'ils sont plus. Non, les jeunes bougent. Et quand tu as du talent, vraiment, ça doit compter. Ça c'est mon opinion. Ça peut être faux, c'est pas grave. Mais je crois que une voix. Mais vous rendez compte juste que tu arrives pour faire un concours, d'avoir le premier prix ou même un rôle, de étudier de début à la fin, et d'avoir la capacité de faire un rôle entier, c'est pas facile. C'est un travail immense, une vie entière. Tu travailles pour avoir la possibilité d'avoir la force, même et aussi scénique, que tu fais un rôle, n'importe lequel. C'est un grand travail.
Dans ces pays qui découvrent l'opéra, enfin la Corée l'a découvert depuis quelques temps, mais toutes ces nouvelles maisons d'opéra en Chine, dans les pays du Golfe,
qui sont magnifiques, moi je fais des...
Comment est le public?
Magnifique. C'est vraiment de la folie. Moi, j'ai fait mon premier tour avec Royal Opera House, Covent Garden, 93. J'ai fait un tour au Japon. Et depuis, j'ai été partout, au Japon, en Corée, en Chine. Le public, il est vraiment plus frais dans l'idée que la musique classique, c'est nouveau pour eux. Alors leur réaction, pour vous dire un geste, tous mes collègues peuvent vous dire, si on fait un signe, par exemple moi j'ai cet signe, je fais comme ça, non? Alors je fais ce signe comme ça, tout le monde, toute la salle, ils sont avec les mains, il n'y a plus d'applaudissements, vraiment, ils ont une réponse fantastique. Ouais. Et en plus, dans... parce que vous parlez des chanteurs d'autres nationalités, ok. Encore dans le monde lyrique, j'ai réfléchi et je me suis dit que depuis mon début, presque partout, moi je vois les mêmes visages. Tous les directeurs de théâtre, ils sont les mêmes. Tous les mêmes, depuis mon début, presque partout.
Là aussi, il faut abandonner la vieille politique, hein, ouais, Sylvain.
Absolument. Oui, absolument. By the way, voilà. Et c'est important que aussi, bien sûr que je dis pas que c'est pas bien, mais quand même, le monde bouge, le goût change, et je crois que c'est important que les nouvelles générations, ils ont aussi dans tous les théâtres du monde aussi des jeunes, des gens de leur époque. Qui, pour que l'opéra, c'est l'image de leur époque. Sinon, les mêmes directeurs de théâtre, parce qu'ils sont, ils disent, tous les directeurs de théâtre, ils disent, « Ah, mais encore Franco Zeffirelli, ils font ça. » Waouh ! Ça veut dire que, alors, vous êtes déjà fatigué d'une chose pareille. Ça veut dire que vous avez un problème. Et que vous avez fait... mille fois la même chose, et pour changer, vous pouvez faire une bêtise. Pas un changement, un bien.
Il va falloir laisser un petit peu de temps aux personnes pour les questions. Alors, une dernière question, parce que j'ai lu que maintenant, vous vouliez chanter le baroque.
Et là, je me suis dit,
alors là, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Angela? Quelle insatisfaction elle a eue pendant cette carrière pour tout d'un coup, alors vraiment pas jeter tout cela à la rivière, mais faire une sorte de virage à 180 degrés pour le baroque.
Ça peut, oui, mais pour vous, pas pour moi, parce que je vous dis pourquoi. Parce que moi, j'ai commencé, j'ai fait de la musique baroque beaucoup, et j'ai toujours pensé, et même j'ai fait de Monteverdi à Purcell, à Haydn, Handel, tous ces compositeurs, Lully et tout, Pergolesi, etc. Et Vivaldi, même j'ai fait un Vivaldi avec trompette, non? Quand j'étais petite, oh c'est magnifique, la 220, oh c'était joli. Et parce que dans l'école de musique, j'ai fait ce répertoire. Et depuis longtemps, toujours si je dis Mozart, non, peut-être Puccini. Mozart ou musique baroque, non, peut-être Massenet. Bon, quand je venais avec l'idée de faire la musique de baroque ou Mozart, toujours il y avait un autre compositeur que c'était encore plus existant pour moi et peut-être pour ma carrière. Mais quand même, j'aime bien...
Alors c'est quand l'échéance? Quand c'est l'échéance d'Angela sur scène avec, je ne sais pas, Handel ou un autre?
On va voir.
C'est sur scène ou c'est au disque?
Moi, je veux sur le disque. Et sur scène, je dois réfléchir. C'est encore, la scène, c'est toujours en réfléchissant encore plus. Hein? Merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Claudia, élève en chant lyrique à la Grande Motte, un petit conservatoire de province. Une question, est-ce qu'une diva comme vous, internationale, a été confrontée à des problèmes de stress ou encore maintenant avec votre expérience avant de rentrer en scène?
Ah oh non, 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 non. Tu dois être. Non, non, non. Tu dois être né pour être un artiste sur scène. Même si tu fais deux pas, et même si tu dois présenter, et si tu fais une émission, okay, si tu dois, tu es professeur, quand tu es en face du public, c'est vraiment autre chose. Tu dois être faite, c'est mon avis, bien sûr, que le public, que les gens t'écoutent, ou les étudiants, tu dois être bien construit, que tu résistes à tout ça, parce que les émotions, elles sont grandes. Moi, même quand j'étais petite, je vous dis une chose en passant, je faisais comme spasmophilie. J'avais vraiment des émotions immenses. Et même avec l'estomac, mamma mia. Mais bon, c'est ma cuisine. C'est vraiment fait de... Et que le spectacle commence, tu dois être faite pour le spectacle. Et que les émotions passent. Et que même si tu n'as pas dit un mot, tu es présente et que tu fais le public curieux de toi-même, de tout ce que tu viens être sur scène.
Oui, bonsoir Pascal. Bon. Mille merci pour cette heure exquise que je n'ai pas vue passer. Je partage tout à fait votre avis, je ne sais pas pourquoi, sur le physique. Non, je ne suis pas gros.
vous êtes bien fait.
Merci. Un sujet a déchaîné les passions sur Forum Opéra.
Oui.
Pour ou contre les bis lors d'un opéra?
Non, mais ça dépend de qui. Attention, attention, ça dépend de qui et dans lequel moment. C'est très important. Ok? Voilà, c'est tout. Ça dépend et c'est comme dans la vie. La façon que tu dis les choses et que tu fais les choses, ça compte beaucoup.
Bon, merci pour cette belle leçon. Je m'appelle Catherine, je suis mélomane. Je voulais vous demander d'où vient cette tradition des stars de firmament, sur le firmament de musique comme Celibidache, de Roumanie,
oui,
je
oui,
veux
oui.
dire, uh-huh. comme Celibidache, uh-huh. Dinu Lipati, je ne sais pas, Radulupu, oui, vous, Vaduva, etc. Des compositeurs, je ne connais que Ligeti et Enesco, c'est tout, je suis oui. désolée, mais c'est le conservatoire, ou c'est, d'où ça vient?
Bien sûr qu'en Roumanie, on se demande. Mais je crois, dans le chef d'orchestre, on n'a pas beaucoup, très, très grand, mais surtout le chant dans notre pays, c'est vraiment fort parce que on est des orthodoxes et on chante beaucoup à l'église. Alors, on est habitué de chanter depuis l'enfance. Tout le monde chante. Et peut-être, ça c'est mes explications, je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas vrai. Mais, et même la Roumanie, c'est entre les pays, c'est le pays latin entre pays slaves. Et ça nous donnait un mélange de quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais je n'ai jamais pensé au surnom, je ne sais pas, des compliments comme diva. Pour moi, c'est un compliment. Et ça, c'est une chose que c'est bien et c'est, vous le pensez, mais pas moi. Jamais de ma vie, j'ai pensé que ça va être un jour que quelqu'un, je serai une diva. Non, non, je pensais à faire une carrière et de le faire bien. Et de plus, le plus long possible. C'est ça, ma préoccupation. Voilà.
Je voulais savoir si vous seriez éventuellement tenté par d'autres types de répertoires, par exemple le jazz.
Jazz, yes! I love jazz. I really adore jazz. Bien sûr, mais c'est une autre technique. J'ai commencé à faire quelque chose, mais... OK, un petit peu... Mais c'est vraiment un autre style. J'ai toujours essayé d'autres styles, bien sûr, parce que c'est aussi à la mode. C'est pas toujours le public vraiment 100% opératique que vous aimez opéra, vraiment, le chanteur d'opéra doit chanter que l'opéra. S'il chante autre chose, on l'aime moins. Ou, je ne sais pas, on se dit, mais peut-être que ce n'est pas pour. Voilà. Je veux essayer. Je vais essayer, mais j'adore le jazz. Justement. Je suis un fan de jazz. Oui. Oui.
Et du rap?
Non, rap, non. Non, ça, non parce que c'est trop de parler là. Non. Hmm? OK.
Merci beaucoup.